Et l'heure de retrouver le journal de rédaction est Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Israël a débuté ce matin l'évacuation de dizaines de milliers de familles palestiniennes dans l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Et faut-il y voir déjà les prémices de l'offensive d'ampleur promise par l'État hébreu dans sa guerre contre le Hamas? Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal. On s'intéressera au premier tour de l'élection présidentielle aujourd'hui au Tchad, un scrutin que beaucoup estiment joué d'avance et surtout destiné à perpétuer la dynastie Déby au pouvoir depuis 3 décennies. À suivre également une visite plutôt rare, celle du président chinois Xi Jinping est de retour en Europe avec une première étape par Paris. Nous serons en direct depuis la cour de l'Elysée. On tâchera par ailleurs de mieux comprendre les enjeux d'un duel à l'œuvre actuellement pour la reprise de l'ex-fleuron de la French Tech, Atos. Enfin, à quel point les Français connaissent-ils l'Union Européenne? La question peut, c'est vrai, sembler étrange et la réponse, on le verra, non moins inattendue. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Adrien Broche, responsable d'études chez Via Voice. Au 213e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, non seulement les efforts en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se heurtent toujours à l'inflexibilité des deux camps, au risque d'anéantir toute possibilité, même infime, d'une réconciliation entre les deux peuples. Mais l'impasse pourrait se creuser davantage encore après que l'armée israélienne a donc appelé ce matin les Gazaouis présents à l'est de la ville surpeuplée de Rafah d'évacuer, soit le possible prélude funeste à une offensive militaire d'ampleur de l'État hébreu dans sa guerre totale contre le Hamas. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, alors rappelons que cette localité sud de la bande de Gaza abrite aujourd'hui plus d'un million de Palestiniens, soit la moitié de la population de l'enclave, pour la plupart des déplacés qui ont fui la guerre plus au nord et pensaient avoir trouvé ici un refuge. Pour l'heure, les évacuations ont donc débuté dans certains quartiers périphériques et elles ne concerneraient a priori pour l'instant, Thibault, que 100 000 personnes.
Ouais, un peu plus de 100 000 personnes, Thomas, concernées dans une zone entre l'Égypte à l'ouest et le point de passage de Kerem Shalom au sud. Les habitants ont reçu ce matin des SMS, des coups de téléphone et des tracts envoyés du ciel, les encourageants, c'est le mot utilisé par l'armée, à partir vers le nord. L'objectif, c'est de les inciter à rejoindre la zone littorale d'Al-Mawazi, où s'entassent depuis plusieurs semaines des centaines de milliers de civils. L'armée israélienne dit avoir élargi ce camp déplacés, avoir apporté des tentes et de l'aide humanitaire, information évidemment difficile à vérifier et difficile à croire sur place, comme l'a assuré tout à l'heure Mohamed, pris au piège depuis plusieurs semaines dans le cul-de-sac de Rafah.
Les gens ne savent pas où aller, c'est la confusion totale. Al-Mawasi est déjà surpeuplé de déplacés. Tout le monde ici sait qu'il n'y a aucune zone sûre à Gaza, du nord au sud, d'est en ouest. Le danger est partout. Personne ne croit en ce que dit l'armée israélienne.
L'armée israélienne qui n'a jamais attaqué au sol Rafah depuis le 7 octobre, mais qui bombarde régulièrement ce qu'elle considère comme le dernier bastion du Hamas.
Alors justement Thibault, est-ce que ces évacuations seraient les prémices d'une future opération militaire au sol ?
Ouais, c'est clairement la volonté du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite. Depuis plusieurs semaines, il répète vouloir envahir Rafah pour neutraliser les 4 derniers bataillons du Hamas et tenter de sauver des otages. Dans cette perspective, nous serions en train d'assister à la première étape d'une offensive au sol. Et pourtant, dans les coulisses, les négociations pour un cessez-le-feu continuent, même si elles sont bien mal engagées. Et ce plan d'évacuation, pour le moment limité, est aussi un moyen de pression sur le Hamas, l'organisation islamiste qui n'a pas encore annulé l'envoi d'une délégation demain au Caire en Égypte, alors que le chef de la CIA, l'américain William Burns, est dans la région.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Au Brésil, les autorités préviennent le sud du pays devenu une zone de guerre. Des villes entières inondées, des milliers de personnes isolées, au moins 78 morts. C'est là le dernier bilan encore provisoire des pluies torrentielles qui se sont abattues dans cette région du Rio Grande à l'économie prospère, principalement agricole. Un véritable désastre partout. Les mêmes scènes se répètent. Des habitants piégés par les eaux, réfugiés sur leurs toits ou naviguant sur de petites barques dans ce qui autrefois était des ruines, catastrophe naturelle de plus, donc liée au réchauffement climatique. Après déjà une succession sans précédent de vagues de chaleur record, sans compter une sécheresse historique en Amazonie.
Les Tchadiens votent à partir d'aujourd'hui pour mettre fin à 3 années de pouvoir militaire.
Sauf que déjà de très nombreuses organisations internationales, au diapason d'ailleurs d'une opposition violemment réprimée et écartée de la course, mettent en doute la sincérité de ce scrutin. En clair, cette présidentielle se résumera pour l'essentiel à un duel inédit entre d'un côté le chef de la junte lui-même, le général Déby, et de l'autre son premier ministre, un ancien opposant rallié au régime. Pour le reste, 8 autres candidats réputés proches ou peu critiques du pouvoir en place serviront à donner un semblant de vernis démocratique à cette élection. Alors ce scrutin sera notamment suivi de très près par Paris. On se souvient qu'Emmanuel Macron, en l'occurrence, avait été le seul dirigeant occidental à se rendre aux obsèques d'Idriss Déby père avant d'adouber son fils en dehors de tout processus démocratique. Et pourquoi, Valérie Crova? Parce que le Tchad est devenu le tout dernier point d'ancrage de la France sur le continent africain.
Quand Jean-Marie Bockel, envoyé personnel d'Emmanuel Macron dans la capitale tchadienne, déclare en mars dernier « il faut rester » et bien sûr nous resterons, il traduit l'importance que revêt le Tchad, surtout depuis que les soldats français ont été poussés vers la sortie au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le Tchad est le seul pays du Sahel à abriter encore des forces françaises. 1 millier de soldats sont stationnés sur la base aérienne de N'Djamena. Face à l'influence grandissante de la Russie dans les pays limitrophes, la visite de Mahamat Idriss Déby fin janvier à Moscou a alerté sur un possible rapprochement entre les deux pays. L'épouvantail russe offre à la junte un moyen de pression pour obtenir de son allié français des concessions dans un pays où l'opposition est réduite au silence, parfois par les armes. En témoigne la mort de Yaya Diyo, principal rival politique de Mahamat Déby, dans un assaut mené par l'armée 2 mois avant l'élection présidentielle. La France s'était contentée de dire qu'elle suivait de près la situation, sans pour autant condamner ce qui s'apparentait plutôt à une exécution.
Arrivé hier en France pour une visite d'état de 2 jours et avant une cérémonie protocolaire en grande pompe prévue cet après-midi aux Invalides, le président chinois Xi Jinping était reçu ce matin à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron, flanqué pour l'occasion par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, manière d'afficher un front continental uni. Et pour cause, puisque cette visite à Paris n'est en réalité que la première étape d'une tournée européenne qui ne devrait pas manquer d'occasion d'illustrer l'étendue aujourd'hui du délitement des relations à la fois commerciales et géopolitiques entre la Chine et l'UE. Dominique André, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de l'Élysée où le président Xi Jinping a donc été accueilli ce matin dans la cour d'honneur du palais présidentiel au milieu de la garde républicaine.
Oui, Xi Jinping a fait une arrivée remarquée dans la cour de l'Élysée à bord de la berline nationale chinoise Rongti, en français le drapeau rouge, le symbole du Parti communiste chinois. C'est une berline que Mao Tse-tung affectionnait. Le président chinois était seul. Son épouse Peng Yuan, la chanteuse, a son propre programme chargé. Elle est accompagnée de Brigitte Macron et elle visite le musée d'Orsay et l'exposition consacrée aux impressionnistes. Cette 3e visite d'État de Xi Jinping en France a commencé d'emblée par une réunion tripartite, effectivement, avec Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Dans un contexte international tendu, d'emblée, Emmanuel Macron a présenté les enjeux de cette réunion.
Nous sommes à un tournant de notre histoire qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles, qu'il s'agisse des échanges économiques, avec une logique de découplage qui serait néfaste, ou de notre responsabilité à assurer des règles équitables pour tous. Car l'avenir de notre continent dépendra très clairement aussi de notre capacité à continuer à développer de manière équilibrée les relations avec la Chine, ce qui est notre volonté. Et dans un second temps, nous évoquerons l'Ukraine, le Moyen-Orient, 2 crises majeures sur lesquelles la coordination entre nous est absolument décisive.
Aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron veut peser plus dans les discussions face à la 2e puissance mondiale, sur l'Ukraine notamment. La Chine est le seul pays à pouvoir parler avec la Russie. Et puis sur le plan commercial, il est urgent pour les Français, mais aussi pour l'Europe, de rééquilibrer les échanges économiques. L'Union européenne enregistre un déficit abyssal en Chine avec près de 400 milliards d'euros. L'un des dossiers sensibles sera celui des voitures électriques chinoises au prix étonnamment bas. Les Européens ont lancé une enquête sur les subventions dont bénéficie l'industrie automobile chinoise. Des droits de douane seront-ils imposés bientôt aux constructeurs chinois? C'est un grand sujet de tension avec la Chine. La Chine a d'ailleurs déjà riposté en imposant une enquête anti-dumping sur les eaux de vie et le cognac qui vise bien sûr la France, le principal exportateur en Chine.
Merci Dominique André en direct de l'Élysée avec Christophe Papon pour les moyens techniques. Alors, hasard du calendrier ou pas, il se trouve que ce matin même, le gouvernement français et les principaux acteurs de la filière automobile nationale ont signé un nouveau contrat stratégique pour la période 2023-2027. Contrat destiné à accélérer avec le soutien de l'État la production de véhicules électriques dans l'Hexagone, et ce alors que se profile à l'horizon une concurrence chinoise ultra compétitive. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pour encourager donc les constructeurs tricolores à construire davantage, eh bien les pouvoirs publics se sont notamment engagés, Hakim, à poursuivre plusieurs dispositifs de soutien à l'achat et à la location longue durée de véhicules électriques.
Oui Thomas, le plan signé ce matin prévoit la vente de 800 000 véhicules par an contre 200 000 actuellement. Alors pour atteindre cet objectif, notamment en produisant plus en France, le ministère de l'économie a confirmé ce matin le maintien du bonus écologique qui, à titre de comparaison, a disparu en Allemagne du jour au lendemain, mais aussi celui du leasing social pour les ménages les plus modestes. Mais pour celui-là, il faudra attendre début 2025. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Je le dis parce que je vois que dans d'autres pays européens, des choix différents peuvent être faits. Nous maintiendrons des bonus sur les véhicules électriques. Nous remettrons en place le leasing social en 2025, qui a remarquablement fonctionné en 2024, et nous continuerons à maintenir les investissements dans l'industrie automobile qui sont prévus par France 2030. C'est aussi comme ça que nous réussirons, en gardant de la visibilité et de la lisibilité sur les dispositifs de soutien gouvernementaux.
Pour autant, la généralisation du véhicule électrique va générer des dizaines de milliers de suppressions de postes, car sur un véhicule électrique, il y a 20% de pièces en moins par rapport à un véhicule thermique. Il est donc important d'investir dans la reconversion des salariés, et tous ne pourront pas forcément retrouver du travail. C'est ainsi que ce matin, le ministre de l'économie a donc confirmé la mise en place de plans de formation à hauteur de 20 millions d'euros de la part des constructeurs et de 30 millions d'euros de la part de l'État. France Travail sera également sollicité pour inciter les jeunes générations à travailler dans l'électrique, notamment avec la construction de gigafactories prochainement en France, particulièrement dans le nord du pays. Rappelons qu'actuellement, la filière automobile concerne 900 000 personnes en France. Thomas.
Merci Hakim Kasmi.
Le géant de l'informatique Atos, étouffé par 5 milliards d'euros de dettes, s'est donné jusqu'au 31 mai prochain pour pouvoir présenter une solution de sauvetage financier à ses créanciers.
Et dans l'immédiat, l'ex-fleuron de la French Tech a besoin d'un milliard d'euros de liquidités pour poursuivre son activité. Et puis parallèlement, le groupe assure avoir engagé des discussions avec l'État, lequel pourrait vouloir acquérir ses activités dites souveraines. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors l'entreprise dit avoir reçu au total 4 offres de restructuration financière, mais 2 tout particulièrement, celle des 2 hommes d'affaires, donc Daniel Kretinsky d'un côté et David Layani de l'autre.
Oui, David Layani, c'est le principal actionnaire actuel d'Atos. Le PDG du groupe informatique OnePoint détient 11% du capital. Associé avec le financier Walter Butler, il propose d'effacer 3,2 milliards d'euros de dettes, d'injecter 350 millions d'euros dans la restructuration d'Atos, ce qui est inférieur à l'offre portée par Daniel Kretinsky, soutenue, lui, par le fonds spéculatif britannique Attestor. C'est le même avec lequel il avait déjà remporté la reprise du groupe Casino. Eux prévoient d'effacer 4 milliards d'euros de dettes et d'engager 600 millions de cash dans le capital d'Atos. La troisième offre examinée par le conseil d'administration hier, elle émane des créanciers, des détenteurs de la dette colossale d'Atos, banques, hedge funds et institutions financières. Elle se pose en arbitre, surtout incontournable du duel Kretinsky-Layani, avec 7 conditions qu'elle pose, que le groupe Atos ne soit pas démantelé. Car l'an dernier, Daniel Kretinsky, déjà lui, était entré en négociation pour reprendre la branche infogérance d'Atos, celle qui vend des solutions informatiques aux entreprises. Ça n'avait finalement pas abouti. David Layani, comparé à son rival tchèque, est un acteur déjà reconnu du secteur informatique. Il a, dès le début, assuré qu'il voulait conserver l'intégrité des actifs d'Atos, la branche infogérance donc, et aussi celle qui concerne la cybersécurité, la gestion des données et le cloud. Ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez dit Thomas, l'État est en discussion en parallèle pour acquérir avec des alliés industriels français 100% des activités stratégiques souveraines d'Atos, des systèmes informatiques qui sont indispensables par exemple pour les opérations de l'armée de terre, pour la navigation des marines marchandes et militaires, ou bien pour les communications à bord des avions Rafale 4. Les projets de reprise de David Layani comme de Daniel Kretinsky sont, nous dit-on, compatibles avec cette stratégie de l'État. L'objectif à présent, c'est d'aboutir à un plan de sauvetage financier d'Atos qui sera présenté le 31 mai prochain.
Merci Camille Magnard.
À peine plus d'un mois des élections européennes, combien de Français se disent intéressés par ce scrutin ?
Réponse, la moitié, 49%, c'est ce qui ressort de la troisième édition du baromètre européen Via Voice, publié ce matin. Alors faut-il voir le verre plutôt à moitié vide ou carrément à moitié plein ? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Adrien Imbroche, responsable d'études chez Via Voice. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Précisons tout de suite que les sondés que vous avez interrogés ne l'ont donc pas été sur leurs intentions de vote, mais bien sur leur perception de l'Union européenne, leur niveau d'information quant au scrutin du 9 juin prochain. Et à ce titre, le tableau que vous brossez est celui d'une France globalement, voire très mal informée. Un exemple, pratiquement un tiers des sondés affirment ne pas connaître le mode de scrutin, ni même la date de l'élection. Comment expliquer cela ?
Oui, vous le disiez, on a déjà une France coupée en deux sur la question de l'intérêt pour le scrutin du 9 juin, avec un Français sur deux qui se dit intéressé et l'autre moitié de la population qui se dit pas intéressé. Cet intérêt, il est corrélé aussi en partie. Il y a un manque d'information qui touche effectivement deux tiers aujourd'hui de la société française, avec une part de ceux qui se disent très mal informés qui est trois fois supérieure à celles qui se disent très bien informées. Donc même quand on regarde les extrémités des segments comme ça, des répondants, les choses bascule du point de vue d'une mauvaise information. On parle effectivement de cette mauvaise information, elle touche le Parlement européen, elle touche le niveau institutionnel, elle touche aussi les élections européennes plus directement, avec une mauvaise identification de manière assez générale des têtes de liste, et dans ce climat-là, une prime forcément à ceux qui sont le plus identifiés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà au niveau stato-national, Jordan Bardella en tête, évidemment une très forte identification. Donc effectivement, à un mois du scrutin, on est dans un climat de très mauvaise information et d'anxiété aussi assez généralisée.
Manque d'information et même mauvaise information, dites-vous, à qui la faute ?
Alors il y a sûrement à la fois des responsabilités de long terme dans la construction européenne qui s'est peut-être faite trop éloignée des préoccupations quotidiennes, matérielles de l'opinion, des responsabilités aussi de court terme de nous toutes et tous, et peut-être aussi des candidats et têtes de liste qui, je crois, ont tout intérêt à adopter aussi et à entrer dans cette campagne européenne par une grille de lecture qui soit beaucoup plus pédagogique qu'elle ne l'est actuellement. Et quand on voit un petit peu aussi le climat de débat actuel, on en est assez loin. Donc évidemment, une responsabilité sûrement partagée, mais qui, et je crois que c'est aussi une information de cette enquête-là, qui doit inciter journalistes, acteurs du monde intellectuel, acteurs politiques aussi, à davantage de pédagogie, davantage de fond, parce qu'on a aujourd'hui plus de la moitié des Français qui considèrent qu'on dit trop souvent que tout est joué d'avance et qu'on n'a pas assez de débats de fond.
Est-ce que vous diriez que, dans l'ensemble, les sondés ont une représentation plutôt négative à la fois du Parlement, donc européen, mais aussi de ceux qui y siègent ?
Oui, c'est un des paradoxes, mais qui s'explique. C'est-à-dire qu'on a une très mauvaise information. Et pour autant, s'il y a bien une certitude qui est, alors une certitude, le mot est peut-être fort, mais en tout cas quelque chose, un constat qui est majoritairement partagé, c'est celui de députés européens qui seraient trop payés. Donc on ne sait même pas forcément si les élections européennes du 9 juin vont permettre d'élire des députés européens. Les confusions avec les commissaires européens sont encore largement entretenues. En revanche, s'il y a une certitude ou quelque chose de partagé, c'est bien qu'ils sont trop payés. Donc il y a effectivement cette méfiance qui accompagne et qui entraîne de la défiance, le tout est, et c'est peut-être un point important de l'enquête aussi, dans un climat d'opinion qui place l'anxiété économique et géopolitique au premier plan.
Merci Adrien Broche, responsable d'études chez Via Voice, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation. La vente d'État entre héritiers devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence cet après-midi doit débuter le procès de l'assassinat de deux membres du grand banditisme corse. C'était en décembre 2017 à l'aéroport de Bastia, présente notamment parmi les 16 accusés une gardienne de prison, laquelle a reconnu avoir renseigné les assassins sur les dates de sortie des deux victimes. Une histoire qui aura un inspiré le film Borgo, sorti au cinéma il y a quelques semaines au Grand Dam des Avocats. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec un ciel globalement agité, humide, quand une perturbation pluvieuse touchera la moitié est du pays. Des averses parfois orageuses tomberont à l'ouest. En revanche, la Corse et le sud de la région PACA seront davantage épargnés. Quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.